France Musique. Musique et moi.
Laurent Sexic.
Elsa Boublil.
Si cette histoire n'était pas vraie, pourquoi l'aurais-je inventée ?
c'est sur cette air de l'élixir d'amour, Una furtiva lagrima, une larme furtive, composée par Donizetti, interprétée ici par Luciano Pavarotti, que nous accueillons Laurent Seksik, écrivain, dramaturge, scénariste de BD et médecin, intermittent, on le verra tout à l'heure, auteur notamment des derniers jours de Stefan Zweig et du cas Edouard Einstein, best-seller vendu à plus de 100 000 exemplaires chacun. Votre dernier roman, Un fils obéissant, apparu chez Flammarion en 2018, mais pour ce qui est de votre actualité littéraire, vous venez de préfacer Pas de défaite pour l'esprit libre, un recueil de textes inédits écrit entre 1911 et la veille de la mort de Zweig, qui dessine un portrait politique de lui qui contraste quelque peu avec l'image que la postérité a gardée de lui. Vous venez également de signer le scénario d'une bande dessinée sur Charlie Chaplin. Prolixe vous êtes. Bonjour Laurent Seksik.
Bonjour Elsa Boublil.
C'est une joie de vous recevoir. On voit bien qu'il y a une petite légère obsession autour de Stefan Zweig, mais autour aussi de ces personnages, ces hommes du XXe siècle qui ont marqué l'histoire, ne serait-ce que par leur personnalité.
Par leur personnalité, par le parcours de leur vie. Par leur drame intime et leur épopée publique. Mmh. Et c'est souvent le contraste entre ces drames intimes, le fait que le fils d'Einstein, schizophrène, le drame final de Zweig, la mère folle de Chaplin, qui sont sans doute à la source de leur génie aussi. C'est-à-dire, c'est essayer de trouver, de chercher, d'explorer la trace de leur génie sur le fond de cette histoire du XXe siècle, qui aussi me fascine avec ses propres drames et ses splendeurs.
Ouais, la mélancolie est bien présente, c'est pour ça que je voulais commencer avec l'élixir d'amour et cette larme furtive, parce qu'on sent bien que derrière toutes ces personnes, leur mélancolie vous intéresse, voire vous obsède, Laurent Seksik.
Oui, la tristesse qui est à la source aussi de la création. Mmh. On écrit parfois exalté, souvent, dans un état second, ou presque, même s'il y a un travail d'écriture ensuite, là je parle pour le roman, un travail d'écriture colossal qui s'apparente plutôt à celui d'un orfèvre, à celui d'un sculpteur, mais à la source il y a une forme d'exaltation qui vient puiser, c'est cela qui est assez curieux, dans la mélancolie, et Zweig, pour le premier d'entre eux, était un grand mélancolique, état qui l'a sans doute permis d'écrire ses plus grands livres et qui l'a sans doute aussi perdu.
C'est sans doute pour ça aussi qu'on écrit des histoires, mais de cette phrase que vous nous avez offerte pour commencer, si cette histoire n'était pas vraie, pourquoi l'aurais-je inventée ? Elle est au cœur de votre problématique presque, Laurent Seksik, elle est très bouleversante.
Alors, mon père me l'a raconté, parce qu'il adorait me raconter des histoires, et je la tiens de lui, et elle est à la source de mon travail, c'est-à-dire de réinventer des histoires vraies, de faire d'aventures humaines des fictions qui reposent sur la vérité. Alors c'est un peu compliqué, c'est un effet totalement paradoxal. C'est de rendre fictionnel ce qui est vrai, c'est de mettre en scène la mort de Zweig pour les derniers jours de Stefan Zweig, la folie du fils d'Einstein, ou la journée de Romain Gary où il apprit que son père trompait sa mère. Mmh. Donc c'est de mettre en scène la réalité et donc intuitivement d'essayer d'approcher une vérité par la voie romanesque.
C'est tout un travail qu'on va pouvoir évoquer tout au long de cette émission, puisque vous êtes l'invité de Musique et moi, Laurent Seksik, une belle manière de vous découvrir à travers vos goûts musicaux. Thank you. Juin Barcarolle, extrait des Saisons de Tchaïkovski, interprété par Sviatoslav Richter. Ces Saisons, qui sont une suite de morceaux pour piano composés entre novembre 75 et mai 76, nous renvoient à votre enfance, Laurent Seksik. Ce sont les premiers souvenirs musicaux.
Ce sont les notes que jouait ma mère. Alors pas aussi bien que Richter, bien entendu, mais pour moi, c'est son interprétation est la plus chère. Mmh. Et donc, ces notes qui m'ont plongé dans la musique et qui ont été là parmi les premières. Il y avait celle de mon père, par ailleurs, qui était totalement différente, qui était les
il
feuilles mortes.
Il jouait aussi du piano?
Non, alors lui chantait les feuilles mortes.
Ouais,
donc justement, c'était deux façons d'aborder la musique, mais celle-là était si douce, si prégnante aussi dans la maison. Et donc, il y avait cette espèce de grâce qui irradiait de ces notes et qui m'a fait grandir dire aussi dans la musique.
Elle jouait quotidiennement, votre mère ?
Elle jouait pas quotidiennement parce qu'il y avait cette espèce de gêne de pas... Non, c'était... Elle se mettait au piano, comme voilà, elle s'asseyait au piano et puis elle quittait le piano comme si un peu gênée d'avoir apporté ce cadeau dans la maison. C'était très curieux.
De la sonorité dans la maison.
Voilà. Oui, mmh. et puis intimidée presque parce qu'elle joue d'ailleurs encore actuellement, mais c'est toujours splendide.
Donc très pudique aussi par rapport à sa connaissance.
Voilà, par rapport à son apprentissage de la musique, et c'est quelqu'un de très pudique en général.
Alors ça explique sans doute pourquoi ce programme musical est très pianistique. Laurent Seksik, vous avez grandi à Nice,
oui,
n'est-ce pas? Donc dans une maison, l'ambiance, le soleil, bien sûr, on l'envisage. Vous jouiez vous-même de la musique?
Oui, je suis un pianiste assez médiocre, mais je continue à m'y mettre. J'aime beaucoup lire des partitions et les jouer.
Les déchiffrer, donc.
Les déchiffrer, oui. Mais ça reste un vrai plaisir. J'avais arrêté et puis je m'y suis remis. Et c'est étonnant de voir le plaisir que l'on peut prendre, même en jouant de façon assez médiocre, à déchiffrer, et l'émotion que l'on peut exprimer aussi. Et cette émotion-là, voilà, je l'ai découverte assez tôt, comme beaucoup de vos auditeurs. D'abord avec une professeur de piano assez terrible, qui avait une règle en bois, qui vous frappait sur les doigts lorsque vous faisiez une fausse note. Et puis, une deuxième professeure qui m'a fait aimer la musique. Et qui m'a fait découvrir combien on pouvait exprimer ses sentiments à travers des notes. Thank you.
Philippe Cassard interprète le clair de lune de Claude Debussy. On parlait de cet apprentissage, Laurent Sexic, du piano, et puis la sensibilité. Là, c'est une œuvre qui s'y prête absolument. C'est un souvenir de votre mère jouant ou de vous apprenant?
Non, c'est le premier morceau qui m'a donné du plaisir. Et il y avait cette phrase assez drôle de ma professeure de piano, quand je m'inquiétais de voir mon meilleur ami jouer bien mieux que moi. Elle m'a dit, mais toi, donc j'avais 14-15 ans, elle m'a dit, mais oui, mais toi, tu as de la sensibilité. Et c'est comme si je m'étais réveillé un matin, le lendemain, avec un super pouvoir qui était la sensibilité. Alors, à 15 ans, on s'en sert assez peu, mais c'était la première fois, après quelques années de piano, que je ressentais quelque chose d'assez profond en appuyant sur des touches. Et finalement, c'est un peu la même sensation que j'ai eue quelques années plus tard. Moi, j'ai commencé à écrire à 17-18 ans, en apposant des mots sur une feuille, de pouvoir exprimer quelque chose.
C'est quoi Laurent Sexic ? C'est l'étourdissement, par exemple ?
Alors non, pas pour moi. Pour moi, c'est plutôt un état et une émotion à retranscrire. Moi, j'ai assez peu l'angoisse de la page blanche et plutôt cette espèce d'ivresse de la page blanche. Donc il y a une émotion qui surgit après avoir très longuement mûri. C'est-à-dire que aujourd'hui, hein, je parle pas lorsque j'avais 18 ans, mais chaque matin avant de me mettre au travail, j'ai l'impression que je n'arriverai pas à écrire à nouveau, que ma carrière littéraire s'achève ce matin-là, et tous les matins c'est pareil, que je vais retourner à l'exercice de la médecine, de façon plus régulière. Alors aujourd'hui, j'ai des rites pour arriver à écrire, et à reprendre le roman à la page que j'avais terminé la veille, je lis. Donc je lis toujours la même chose, c'est-à-dire deux ou trois pages des Fleurs du Mal, deux ou trois pages du Rivage des Sirtes, deux ou trois pages de Proust. Je recopie, comme je le fais depuis l'âge de 18 ans, un passage de Madame Bovary. Et petit à petit, je retrouve mon style. Enfin, je retrouve une manière d'écrire qui s'apparente à la page que j'avais écrite la veille. C'est un peu, j'imagine que je ne l'exprime pas très, très clairement. Mais donc il faut cette espèce de sas pour passer d'un état normal à l'état d'écrivain.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous avez évoqué le fait que vous étiez médecin, Laurent Sexic, vous venez d'une famille de médecins, je crois.
Et il y a des médecins dans la famille, oui.
Parents médecins, père médecin?
Non, père, non, 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 non.
Ah,
père,
non.
Des enseignants.
Enseignant.
Oui, 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 oui.
Et alors, ce désir de médecine venait d'où? Parce qu'on a souhaité que vous soyez médecin.
Alors, à la fois, il y avait ce souhait paternel très puissant, sans doute rêvait-il aussi d'être médecin, mon père. Et il y avait aussi, très tôt, la conviction personnelle que pour être écrivain, il me fallait, à côté de cette vocation, un métier...
stable.
Un métier utile. Alors, plus que... Oui, alors stable, mais qui reposait sur la connaissance. En cela, c'était stable. C'est-à-dire, et maintenant encore, si je passe de l'un à l'autre, c'est parce que devant le vertige de l'écriture, de la littérature, il y a cette sorte de terre ferme de la connaissance. C'est-à-dire que le diagnostic repose sur des choses sûres. Et il y a aussi le fait que écrivain, on se sent souvent inutile. On se sent à l'écart de la société, on se sent dans un monde qui ne lit plus ou qui lit de moins en moins, et puis on ne voit pas pourquoi on rajouterait un livre à ces centaines de livres qui paraissent. Ensuite, on change, si vous voulez, durant l'année ou de deux ans que nécessite l'écriture d'un livre, on passe par tous les stades. Mais quand je ne suis pas encore arrivé au stade où je dois me mettre à écrire, je me dis qu'il faut que je trouve une utilité dans cette société-là. Et elle passe par ce qui est un des plus beaux métiers.
Thank you.
Un extrait de l'Adagietto, la symphonie numéro 5 en ut dièse mineure de Gustav Mahler par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Leonard Bernstein. Bernstein, qui est un interprète que vous aimez beaucoup, je crois, Laurent Seksik, et que j'ai choisi là, dans cette interprétation de l'Adagietto de la symphonie numéro 5, parce que il le dit, et on le sent quand on écoute cette interprétation, il est complètement dedans. Et il le dit, quand j'interprète bien, j'ai l'impression que j'ai moi-même composé. J'avais envie de le mettre en parallèle avec votre sujet d'écriture, qui est presque de se mettre dans la peau, en l'occurrence, par exemple, de Stefan Zweig, puisqu'on parle de Vienne et de Mahler.
Absolument, oui. Alors pour moi, il y a des musiques de livres, c'est-à-dire des musiques qui accompagnent l'écriture d'un livre. Non pas que j'écrive en écoutant, parce qu'en réalité, j'ai besoin à la fois du silence extérieur pour entendre une sorte de voix intérieure. Alors ça fait un peu dingue quand c'est dit comme ça, les mots que vous disiez, que vous exprimiez, se mettre dans la peau d'eux. Je me souviens du jour où j'ai dit à mon éditeur, chez Flammarion, j'ai écrit une centaine de pages, mon éditeur m'a demandé ce que c'était. Et là, je lui ai dit, écoute, je me suis mis dans la peau de Stefan Zweig. Et il a souri comme on peut sourire, à l'évidence, et comme j'aurais souri si on m'avait dit de pareilles phrases. Il a lu, il a compris, et il a aimé ce livre. Mais c'est vrai que c'est une espèce de, à la fois de transfert. C'est extrêmement difficile à dire, mais réellement, là, je travaille sur Kafka, et j'étais ce matin la mère de Franz Kafka.
En écrivant.
Alors, ce dont je vous ai parler à l'instant, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un sas de décompression, en réalité, qui me fait aller du 1er ou du 5 février ou du 6 ou du 2020 au 4 juin 1924 où se déroule l'action de mon prochain roman. Ce sas passe par le fait de recopier des pages de Flaubert. Et pour revenir à ce que vous disiez sur Bernstein, toute raison gardée dans la comparaison, à un moment, ce qui me permet d'écrire et de retrouver finalement son style, en réalité, parce qu'on n'écrit pas naturellement, en fait, on n'est pas naturellement un écrivain, il y a un état, ce n'est pas de la transe, c'est une espèce de mue qui s'opère, curieusement, et une sorte de voyage dans le temps pour arriver au 4 juin 1924, c'est le fait de recopier Flaubert, de recopier Proust, mais surtout Madame Bovary, chacun à son... Et à un moment, j'ai l'impression d'écrire comme Flaubert.
Et la place de la musique là-dedans, parce que par exemple, l'Adagietto, ça, j'imagine que c'est une œuvre que vous avez écouté en travaillant sur Zweig.
Voilà, c'est ce qui accompagnait, quand je parlais de musique de livre, ça peut paraître absurde, mais c'est la musique qui accompagnait la période où j'écrivais ce roman, comme une aide, comme évidemment les images aussi de Mort à Venise, Thomas Mann et Mahler, dont Zweig avait touché l'épaule lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, et c'était une de ses fiertés, et il l'exprime dans ce chef-d'œuvre qu'est Le Monde d'hier, il raconte lorsqu'il attendait Gustav Mahler devant l'opéra de Vienne, et que Gustav Mahler lui a posé la main sur l'épaule. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fantasmé? Ça fait partie de ces petites histoires d'écrivains qui construisent un mythe. Mais cette musique-là, en effet, dans son côté crépusculaire, accompagnait ses derniers jours de Zweig à Petropolis, au bout du monde, où il a sombré dans la plus grande mélancolie, après avoir non pas fui, mais été en exil permanent durant 9 années.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Yves Montand, qui interprète Les feuilles mortes, d'après un poème de Jacques Prévert, une ode, je crois, à votre père, Laurent Sexic. En tout cas, ça nous renvoie à la présence de votre père dans votre chemin à vous, celui d'écrivain, et puis dans l'intérêt que vous portez aussi à tous ces auteurs, dans leur lien à leurs parents et notamment au père.
Oui, c'est un peu un des sujets de mes romans, la relation père-fils, que ce soit dans le cas d'Edouard Einstein, le fils schizophrène et le père absent, ou dans d'autres romans. Mais au-delà de ça, oui, cette chanson, mon père l'a chantée comme nombre de personnes de sa génération. Il admirait profondément Montand, et Montand était une espèce de héros de la famille, en réalité. Il l'avait rencontré, il lui avait parlé, sur les bords de la promenade des Anglais, après un concert. Il avait été lui parler. Mon père était extrêmement... c'est un enseignant à la fois sérieux, exigeant et exubérant. Et cette musique-là, dès qu'on m'avait mis au piano, il m'avait dit « joue-la ». J'étais bien incapable de la jouer. Et plusieurs années plus tard, c'était un vrai bonheur de pouvoir l'accompagner tandis qu'elle chantait cette chanson qui représentait beaucoup pour lui et qui nous a accompagnés durant le long bout de chemin que nous avons fait ensemble, mon père et moi. Il est aussi très important dans la vocation d'écrivain, qui est la mienne, et cela nous a accompagnés jusqu'à ces derniers instants, parce que j'avais trouvé ce moyen assez curieux, lorsqu'il était en réanimation, de mettre sur YouTube cette chanson-là, et de lui faire écouter, jusqu'à ces derniers instants, Les feuilles mortes. Et alors, il y avait quelque chose de très curieux, c'est qu'en réalité, c'est dans un gant, je mettais dans un gant stérile, et en réalité, je voulais mettre à bicyclette. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, dans ces moments dramatiques de la perte d'un être cher, je mettais les feuilles mortes à chaque fois. Je ne réalisais pas que peut-être il aurait aimé partir. Il est parti sur cette musique-là qu'il a accompagnée durant voilà ces feuilles mortes-là ont été sur le chemin qu'il a mené jusqu'à son ultime instant. Et je l'entendais fredonner, lui qui ne pouvait plus parler. Je l'entendais fredonner cette musique. Il fredonnait. En fait, mon père était un homme qui chantait, qui dansait. Et donc, cette fin très accompagnée s'est faite en fredonnant.
Et c'est étonnant parce qu'à bicyclette, c'est presque l'inverse de ce qu'on vient d'écouter. C'est vraiment un regard sur la vie. Bien sûr, on est sur le passé, mais dans quelque chose de léger, alors que cette...
Absolument. Et en effet, c'est ce que je voulais pour lui. Et en réalité, ça s'est imposé différemment et peut-être plus justement.
Le lien au père est omniprésent, on en a parlé, on va pouvoir en parler de nouveau. Laurent Sexic, vous êtes l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique.
Thank you.
Philippe Bianconi et Teddy Papavrami interprètent l'adagio de la sonate numéro 3 en ré mineur de Johannes Brahms, achevé en 1888, alors que Brahms est pour la dernière fois au bord du lac de Thun. Cette mélodie déchirante du violon est en fait un véritable duo entre le piano et le violon. On sent une conversation, un dialogue véritable. Et c'est aussi, Laurence Seksik, on parlait du lien avec le père, une œuvre qui a été interprétée par Albert Einstein avec son fils.
Oui, alors interprétée et dans un lieu peu commun, cela se passait lors de la dernière visite et lors de la dernière retrouvaille entre le fils d'Einstein et Albert Einstein. Et cela se passe à l'hôpital psychiatrique de Burgoslir en Suisse, à Zurich. Le fils vient d'être interné, le fils entre à l'asile et le père part en exil. Et c'est ce point de rencontre-là, en 1933, où, et quand on parle des relations père-fils, où le père assiste à la fois Albert Einstein, que l'on voit toujours sur les photos, la langue tirée, le regard pétillant, extrêmement
joyeux,
proche de la jubilation permanente, a vécu ce drame-là au moment où il devenait banni d'Allemagne, à l'instant où il devenait indésirable, où l'on a brûlé ses livres sur toutes les places d'Allemagne, comme ceux de Zweig, et où il a dû partir en exil, où il était physiquement menacé. Il a cet autre drame de voir son fils, et Einstein était un bon père, il avait deux enfants, il était un bon père, mauvais mari, amant volage, mais très bon père, son fils est interné à l'hôpital psychiatrique, atteint de schizophrénie, en plein délire. Et il y a cette photo qui était un peu à la source de mon roman Le cahier d'Edouard Einstein, où l'on voit Albert Einstein, le regard défait, complètement accablé, comme moi je ne l'avais jamais vu, sur des photos, sur des images, et son fils à côté de lui. Et j'ai toujours été intrigué par cette photo, j'ai appris par la suite. Donc c'est la seule photo dont on dispose d'Einstein et de son fils. Le fils a 20 ans, il ressemble à Marlon Brando sur les photos. Et le père est totalement anéanti, comme on ne l'a jamais vu, comme je ne l'avais jamais vu. Et il y avait quelque chose entre les deux qui ressemblait à une canne. Et le fils, Édouard, avait un manuscrit entre les mains, un livre entre les mains. Et c'est après avoir commencé à écrire ce livre, cette photo étant toujours sur mon bureau, que j'ai pu deviner, elle était toute petite cette photo dans son original, que ce n'est pas une canne, c'était le violon d'un archer. Et cette photo a été prise donc à l'hôpital psychiatrique. Ils ont joué tous les deux ce morceau de Brahms sur le piano de l'hôpital psychiatrique de l'hôpital du Burgoslir. Édouard sortant de son délire, assommé par des drogues, des médicaments, il n'y avait pas encore d'électrochocs, ils sont venus un tout petit peu après, et Albert Einstein totalement anéanti, communiant tous les deux dans ce reste d'air qui leur appartenait encore à tous les deux, le fils ayant perdu la raison et le père, qui était le maître de la raison, devant fuir.
Yitzhak Perlman avec l'ensemble Abbey Road sous la direction de Laurence Foster interprète la méditation de Thaïs de Jules Massenet qui est l'une des mélodies les plus voluptueuses du violon. C'est intéressant aussi parce que c'est une méditation qui nous fait entendre l'éveil spirituel de Thaïs qui est une prostituée qui va être convertie au christianisme par un moine et ce chant c'est celui de l'inspiration de cette conversion. Laurence Exic, c'est une œuvre que vous écoutez pour vous détendre. C'est entre les moments d'écriture et de médecine.
Oui, c'est une prière d'abord. C'est de la musique sacrée sans être de la musique sacrée. C'est très lumineux surtout. On avait eu le crépuscule de Mahler et là c'est autre chose. Ça s'élève. Je trouve que ça apaise. On l'a entendu 10 000 fois évidemment, mais il y a des interprétations comme celle de Perlman qui sont exceptionnelles. Et le voilà, il y a ça, moi ça m'apaise. Oui, et puis c'est quelque chose finalement d'assez léger aussi. Ce n'est pas sans gravité, mais ça appelle vers un ailleurs en réalité. Ça nous entraîne, ça nous porte. Enfin voilà, donc c'est une musique qui détend aussi.
Musique et moi. Elsa Boublil, France Musique.
C'est aussi un chant d'amour. Alors, celui qui vous taraude, Laurence Exic, c'est bien celui du père au fils. C'est d'abord votre lien du père au fils qui vous conduit vers les autres liens de père et de fils. Parce que c'est vrai que on en a parlé, c'est très présent. On en parlait avec Einstein tout à l'heure et son fils Édouard. Vous-même, vous avez écrit un fils obéissant. Votre père a été un guide, j'ai l'impression, sur le plan personnel, voire spirituel.
C'est lui qui m'a à la fois encouragé à écrire. Il me disait, il m'a appelé un jour, il avait arrangé les livres de la bibliothèque. Et il me dit, viens voir. Et donc, moi, j'étais en train de réviser mes cours de médecine. J'étais en deuxième ou en troisième année. Et je lui dis, tiens, je vois que tu as rangé par ordre alphabétique. Il me dit, oui, j'ai rangé les livres par ordre alphabétique. Et puis, regarde cette étagère-là. Il y avait un espace de vide. Il me dit, ben voilà, il y a un espace vide entre Philippe Roth et Isaac Singer. Ben, c'est ta place.
Alors. C'est lourd.
C'est lourd.
Dur.
Et en même temps, ça vous. Alors, c'est assez. Sur le moment, je suis reparti à mes livres de médecine. Mais, voilà, c'était à la fois l'exigence, l'ambition, une forme d'ironie aussi, une forme de drôlerie, et puis un vrai, dans certaines bibliothèques, ou dans certaines librairies, lorsqu'un livre sort, je peux être assez place là en hommage à mon père disparu, en bon fils finalement. Ouais. C'était pas un grand lettré mon père, c'était un lecteur, mais c'était pas, était professeur de sciences économiques, mais il avait il avait senti quelque chose et au-delà de ça, il y avait cette exigence, c'était pas de l'ambition en réalité, c'était le fait de pouvoir se réaliser dans plusieurs domaines de l'existence.
Et à quel moment vous êtes dit oui, pourquoi pas?
Alors, il avait dit ça parce que je depuis la première année de médecine, j'écrivais tous les jours. J'écrivais une page d'un roman en même temps que je recopiais déjà une page de Proust à l'époque. Et il a fallu du temps. Il a fallu une rencontre avec Le Clésio, avec Jean-Marie Le Clésio à Nice plus tard, vers 25-26 ans, pour avoir l'encouragement, un encouragement plus définitif. Mais cela date.
Mais ça veut dire aussi qu'il croyait en vous. Thank you. concert qui interprète le final de la sonate numéro 59 en mi bémol majeur de Joseph Haydn, parce que Glenn Gould, c'est un interprète qui vous intéresse. Je me dis, là, à tout hasard, peut-être qu'un jour vous allez nous écrire un roman sur Glenn Gould, parce que voilà quelqu'un encore de très intéressant dans ses liens, même à son public, mais dans ses liens aux autres. Laurent Seksik, c'est un interprète qui vous plaît, en tout cas.
Qui me fascine comme beaucoup, bien entendu. Vous m'aviez demandé deux interprètes, justement, et j'avais choisi Bernstein et Gould, parce qu'en réalité, ils sont d'une certaine manière complémentaires et ils représentent les deux pôles de l'artiste. Et deux pôles totalement opposés, les deux antipodes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils se sont retrouvés lors d'un des derniers concerts qu'a donné Gould au Carnegie Hall, sur un concerto de Brahms.
C'était très, très, très sympa, parce qu'en plus, Bernstein expliquait pourquoi c'était compliqué entre eux.
Voilà. Et donc, il y a ce point, si je devais écrire un roman, je ne doute pas les moyens d'écrire un roman sur Gould, mais je raconterai cet instant-là, parce qu'en fait, je pars d'un instant et d'un instant d'émotion pour partir, pour l'écriture d'un roman, et avec des résonances profondes au passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernstein, c'est l'éclectisme, c'est de Gershwin à Brahms, c'est la volonté d'enseigner, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'engagement, c'est la flamboyance. Et Gould, c'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est une forme de flamboyance bien entendu, mais c'est le repli sur soi.
C'est Bach.
C'est aussi presque, là, on a jamais diagnostiqué exactement, on a parlé d'Asperger, on a parlé d'autisme, sa manière de fredonner pendant qu'il joue, cette interprétation qui est une recréation, et cet enfermement sur lui-même. Et en réalité, ce sont les deux pôles auxquels un tout artiste, tout écrivain, tout sans doute tout peintre, tout musicien est confronté, se replier sur soi, revenir en soi, revenir à la source de sa vocation, et puis aller vers les autres, enseigner, donner ses secrets, partager, s'engager, et souvent, voilà, on peut balancer entre ces deux extrêmes, et ça rend une vie peut-être plus intéressante.
C'est pour ça, Laurent Seksik, que vous avez tenu à garder ces deux pôles, même si vous êtes un intermittent de la médecine, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission. Garder la médecine, finalement, vous permet de ne pas être dans cet enfermement sur vous-même ?
Ça permet d'avoir une fonction sociale acceptable. Curieusement, j'ai eu du mal à me dire écrivain, dit très tardivement finalement, auteur, écrivain, romancier. La médecine aussi apporte. Alors moi, je ne la perds jamais de vue parce que je révise en permanence, mais je reprends l'exercice régulièrement parce que la médecine est un monde en soi. Un monde avec son langage, un monde avec sa réflexion, un monde utile. Alors l'écriture est utile, le roman est utile, mais souvent le romancier ne voit pas où est sa place là.
La médecine, on
vous offre la chose la plus exceptionnelle, qui est de participer à la guérison de vos semblables à partir de la connaissance que vous avez acquise durant des années et des années. C'est donc un métier formidable.
Rauche, ein traurig Lied
Nelson Gurner et Dorothée Mills interprètent Mélancolie des 17 chants polonais opus 74 de Frédéric Chopin, qui évoque là la solitude des amours perdus. C'est extrêmement mélancolique, ça porte bien son nom. Laurent Sexic, on l'a choisi pour vous parce que Chopin au piano bien sûr, mais Chopin est votre compositeur de chevet, on pourrait dire. Vous l'aimez beaucoup, c'est celui que vous écoutez sans doute le plus.
Oui, c'est pas Mozart, ce n'est pas Beethoven, mais finalement ça, c'est celui qui me parle le plus, sans doute peut-être dans sa tristesse, dans sa mélancolie, dans sa simplicité d'une certaine manière aussi, et dans son lyrisme. Ce mélange de concision et de lyrisme, et finalement, quelque part, cela se rapproche de ma passion pour Zweig. Zweig, ce n'est pas Thomas Mann, ce n'est pas Joyce, ce n'est pas un génie. Il donne la primauté au sentiment sur la raison. Et c'est peut-être ce que je retrouve chez Chopin. Il me parle et m'accompagne. Et puis c'est un monde fini, Chopin. J'ai l'impression, voilà, ce n'est pas cette espèce d'immensité mozartienne ou de Beethoven, c'est une espèce de monde fini dont on peut avoir l'illusion qu'à la fin de sa vie, on aura fait le tour.
Oui, et puis pour en revenir au lien qu'on a dressé depuis le début de cette émission entre sans doute vous et Zweig, puisque c'est le premier personnage qui vous a sollicité et qu'il est là, très présent tout le temps, y compris dans cette préface magnifique, d'ailleurs je le redis, de ce livre « Pas de défaite pour l'esprit libre » de Stefan Zweig, avec des textes écrits entre 1911 et 1942. Il y a aussi ce point commun d'un intérêt porté aux autres qui permet de ne pas parler de soi. Laurent Sexic, il y a quelque chose comme ça aussi chez vous?
Peut-être de trouver bien entendu plus d'intérêt et comment ne le trouverions-nous pas dans ces vies exceptionnelles et d'essayer de capter un instant de ces vies. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, pas de raconter sur toute la longueur d'une existence, mais de capter l'émotion ou l'instant d'émotion qui doit parler d'abord à l'auteur, et puis qui peut parler au lecteur.
Thank you.
L'adagio un poco mosso du concerto numéro 5 en mi bémol majeur opus 73 de Ludwig van Beethoven avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Ricardo Chailly et Nelson Freire au piano. C'est votre dernier coup de cœur, Laurent Sexic. Vous dites que ça détend, c'est vrai que ça détend.
Ça détend et puis il y a une sorte de beauté magique en fait dans ce texte, dans ce morceau et la façon dont le piano est accueilli par l'orchestre. C'est ça qui m'impressionne. On a l'impression que l'orchestre lui ouvre les bras, que les violons lui tendent leur archer et le piano s'installe et il se fond dans la masse orchestrale. C'est tout à fait c'est grandiose. Et en effet, c'est le dernier morceau à la mode chez moi.
Quand vous parlez de texte, Laurent Sexic, c'est intéressant parce qu'il s'agissait en effet de partitions. Quand vous lisez précisément un livre, un texte, cette façon qu'ont les mots de chanter, d'être accueillis par l'ensemble du texte, peut vous inspirer, vous donner envie. Vous disiez que vous aviez besoin d'écrire Madame Bovary pour vous lancer dans l'écriture vous-même. Effectivement, le texte, l'agencement des mots peut vous
conduire. Oui, c'est au-delà de ça même, c'est un vrai échange en réalité. Mais au-delà même de l'écriture, moi, il faut être deux pour qu'un livre existe. Alors, il y a le talent de l'écrivain, mais il y a aussi le talent du lecteur. Il y a l'imaginaire de l'écrivain, mais il y a l'imaginaire du lecteur. Et sans l'imaginaire du lecteur, le livre n'est rien. Donc le lecteur joue un rôle. Et bien évidemment, moi, lorsque je lis, je relis beaucoup les mêmes livres en réalité. Ou lorsque je découvre, quelque chose doit se passer. Voilà, il y a une émotion qui doit être déclenchée. Moi, je suis un lecteur assez impatient. Ce qui n'est pas une qualité hein, d'ailleurs, mais il faut qu'il se passe quelque chose entre l'auteur et moi, et de la même façon, il faut qu'il se passe quelque chose entre le texte que j'écris et moi. Donc, à la source de tout cela, il y a une émotion.
Et c'est cette subjectivité que vous nous offrez d'ailleurs dans vos romans et dans les textes que vous écrivez. Je rappelle aux auditeurs que vous avez écrit la préface de Pas de défaite pour l'esprit libre de Stefan Zweig, des écrits politiques de 1911 à 1942, paru chez Albin Michel. Et puis plein d'autres belles choses. Aussi une BD qui vient de sortir, Chaplin en Amérique, Laurent Sexic et David François. C'est publié chez Rue de Sèvres. On va se quitter avec Léonard Cohen. Là aussi, Léonard Cohen, un personnage, on ne sait pas si c'est lui, sa voix qui vous intéresse, c'est sûrement un peu des deux.
Oui, c'est le poète, ce sont les textes, et puis il y a cette voix qui se pose et qui est dans cette chanson une sorte de violon à lui tout seul et qui parle.
Merci beaucoup Laurent Sexic d'être venu partager 7h30 en notre compagnie.
Merci Isabelle.
Your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long.
We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Dance me to the end of love de Leonard Cohen pour terminer cette émission en compagnie de Laurence Seksik, qui était l'invité de Musique et Moi ce matin sur France Musique. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission ainsi que tous les titres des ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Merci beaucoup à Marie Le Peintre qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.